Alors, nouvelle rencontre. Là, on était dans la bande dessinée, je crois, avant. Saison brune, d'après ce que je comprends. Là, on est maintenant dans la physique, avec Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est donc un physicien à l'Université de Nice, et qui est aussi le directeur et le fondateur de la revue Alliage, qui est une revue dédiée aux sciences, aux techniques et à la culture. Surtout à la culture, on va dire. Surtout à la culture et aux sciences et aux techniques, mais surtout à la culture. Et puis, qui est directeur de la collection Sciences Ouvertes aux éditions du Seuil, et qui nous a fait le plaisir de venir ici, alors que c'est un ancien lecteur de science-fiction, qui a aimé la science-fiction, qui n'en lit peut-être plus maintenant, mais qui va nous parler, c'était ça le thème dont nous avons convenu ensemble, et qui, j'espère, vous conviendra, de la part de fiction qu'il y a dans la science. Puisque là, on parle plutôt de la part de science qu'il y a dans la fiction, de la science-fiction, c'est un thème qui est très souvent abordé, évidemment, aux Utopiales, et là, de la part de fiction qu'il y a dans la science. Donc voilà le sujet de la discussion. Alors on va, évidemment, je vais d'abord échanger avec Jean-Marc pendant peut-être une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes, et après laisser libre choix, libre champ à vos questions, qui, je n'en doute pas, seront nombreuses. Alors, évidemment, quand on se dit « y a-t-il de la fiction dans la science ?», ça a l'air d'être un peu provocateur, parce qu'on se dit « la science, c'est le truc sérieux, c'est carré, ça colle, ça marche, ça fonctionne ». Bref, c'est le truc où la science, où la fiction n'a pas l'air d'être, ne devrait pas être là, parce qu'avec la fiction, on entend peut-être aussi des fois « fictif », et on se dit « une science fictive », ça veut dire quelque chose de pas très clair, qui est du côté de l'invention, du côté du mensonge. Donc poser la question de savoir s'il y a de la fiction dans la science, ça a l'air un peu iconoclaste. Mais je sais que Jean-Marc peut élaborer. Alors, à ton avis, et sous quelle forme peut-il y avoir une part de fiction dans la science ?
Je crois que d'abord, il faut peut-être revenir sur ce mot « fiction » et savoir d'où il vient. L'étymologie est souvent assez instructive. En fait, le mot « fiction » vient du latin, vient d'un verbe latin qui est « fingere ». Fingere, dans le latin classique, ça veut dire « feindre ». Faire semblant d'eux. Et donc, c'est l'idée, effectivement, de quelque chose de fictif. C'est d'ailleurs en ce sens-là que l'emploi Newton, dans cette formule bien connue, quand il dit « hypothèses non fingo », quand on lui demande pourquoi la loi de la gravité est celle qu'il a trouvée. Il dit « oulala, je sais pas, je fais pas semblant de savoir, je ne feins pas d'hypothèse ». Donc, ce verbe « fingere », qui donne « fiction », je le répète, dans le latin classique, il a ce sens. Il fait appel à quelque chose de fictif, donc d'imaginaire, donc d'irréel. Sauf que si vous y regardez de plus près et que vous cherchez à la racine dans le latin archaïque, vous apercevez que fingere a un sens beaucoup plus concret. Fingere, en latin antique, c'est faire des figures. Le mot figure a exactement la même racine. Faire des figures, faire des effigies, faire des représentations. Et donc, dans la première acception du mot, ancienne, cette idée d'une opposition entre ce qui serait de l'ordre du réel et ce qui serait de l'ordre de l'imaginaire n'existe pas. Fingere, c'est faire des figures qui ont vocation, éventuellement, à représenter le réel. Et alors, à partir de là, si on prend le mot fiction dans ce sens-là, et c'est quand même, pour une bonne partie, ce sens-là qu'il a dans la littérature. La littérature crée des fictions, mais ces fictions ont quand même pour objet de nous dire quelque chose sur le réel. On invente des galaxies lointaines, des drames cosmiques, des bestioles extraordinaires dans la science-fiction. On invente des personnages plus familiers dans la fiction romanesque usuelle, mais toujours, évidemment, avec pour objectif de nous enseigner quelque chose, nous faire comprendre quelque chose sur notre condition humaine réelle. Donc à partir de là, si on abandonne cette idée d'une opposition radicale, frontale, entre réel et fictif, on est amené à se poser la question pour la science. Puisque la science, oui, d'accord, est là pour nous parler de la réalité, nous dire des choses sur le réel et nous permettre d'ailleurs éventuellement de le transformer, d'agir sur lui. Mais comment fait-elle ? Elle le fait en créant des représentations mentales, des concepts, des figures intellectuelles qui sont, en un certain sens, des fictions utiles, des fictions qui ne sont pas sans rapport avec la réalité, mais qui sont des fictions. Je commence par un exemple extrêmement banal, extrêmement simple. L'une des plus vieilles sciences dignes de ce nom, c'est la géométrie grecque, celle qu'on retrouve chez Euclide. De quoi nous parle la géométrie euclidienne ? De points, de lignes, de plans. Est-ce que vous avez déjà vu un point ? Bien sûr que non. Le point est une pure fiction mentale. Euclide dit, un point, c'est un espace sans dimension. Évidemment, impossible à dessiner. Si que vous dessinez sur un bout de papier aussi fine soit la pointe de votre crayon, c'est une petite tache qui a une certaine dimension. Elle peut être très petite, millimètre, submillimètre, micron, tout ce que vous voulez, mais elle ne sera jamais nulle. Donc le point géométrique est une idéalité. C'est quelque chose que nous imaginons. C'est, au sens propre, une fiction. Même chose évidemment pour la droite dépourvue d'épaisseur, pour le plan lui-même sans épaisseur, etc.
Donc, droite, les droites parallèles, alors du coup aussi.
Pardon ?
Pour les droites parallèles aussi, parce que les droites parallèles, quand on dit qu'ils ne se rejoignent jamais ou qu'ils se rejoignent à l'infini, ou nul n'a été à l'infini pour vérifier que ça se passe bien, enfin ça se passe comme on veut.
Ben, tu viens de prononcer le mot-clé, le mot infini est une fiction, évidemment. L'infini n'appartient pas à des objets concrets de notre réalité. Nul n'a jamais vu quoi que ce soit d'infini. Notre vision a toujours une distance finie. Mais notre esprit est ainsi fait, et c'est ça, la rationalité. La rationalité, ce n'est pas de se coller au réel, c'est le contraire. C'est de s'en détacher et de se forger des instruments mentaux qui sont à la fois beaucoup plus simples que la réalité, beaucoup plus idéaux, mais qui permettent d'en rendre compte. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que le travail de la science, et là, je parle essentiellement de son travail théorique, quand elle forge des notions, des concepts, c'est un travail de fictionnalisation au sens propre du terme.
Et donc, est-ce que, dans cette gamme-là, c'est-à-dire parler de concepts qu'on ne peut que se représenter sans les toucher du doigt. Est-ce que, tu as parlé de mathématiques, en physique, est-ce qu'il y a aussi des exemples de situations ? Alors j'en vois peut-être une, même plusieurs probablement, mais qui sont, imaginons qu'il n'y ait pas ceci, par exemple, imaginons qu'il n'y ait pas de frottement, oui. Par exemple, et alors il se passerait telle et telle voilà. chose.
Alors c'est un excellent exemple, c'est le deuxième que je voulais donner, tu viens à ma rencontre, après l'exemple de la géométrie grecque, les débuts de la physique au sens moderne du terme, c'est au début du XVIIe siècle, c'est Galilée et ses contemporains, mais prenons Galilée comme symbole éminent de ce moment-là, et la façon dont Galilée découvre, énonce la loi de la chute des corps. La loi de la chute des corps, c'est quelque chose qui n'a rien d'évident. La preuve, c'est qu'il faut attendre le début du XVIIe siècle pour arriver à la formuler. Si vous placez dans une perspective intellectuelle qui est celle de l'Antiquité, jamais vous n'arriverez à la loi de la chute des corps. Pourquoi ? Parce que vous vous intéressez au corps réel. Vous regardez tomber une pierre, vous regardez tomber une feuille, ça n'a absolument rien à voir. La pierre tombe comme ça, la feuille tombe comme ça, lentement. Dégager une loi ou un principe ou quelque chose qui a de commun à ces deux mouvements de chute est extrêmement difficile. Et c'est à ce problème que se heurte effectivement toute la physique aristotélicienne. Comme elle veut rester au plus près du réel et être fidèle à notre expérience sensible, elle a beaucoup de mal à s'en abstraire. Et que fait Galilée dans un geste absolument radical ? Il imagine un espace privé d'air. Il prend conscience du fait que ce qui différencie la chute de la feuille dans l'air et la chute de la pierre, c'est que dans le cas de la feuille, c'est l'air à travers lequel elle tombe qui offre une résistance beaucoup plus importante que ce n'est le cas pour la pierre. Et donc, il se forge une image mentale. C'est un jeu, c'est exactement le jeu des gamins qui disent « on dirait que tu es le roi et moi le premier ministre ou le traître, etc. » Et Galilée joue ce jeu-là, jeu de fiction, où il dit « on dirait qu'il n'y a pas d'air autour de nous. Qu'est-ce qui se passerait ?» Et dans cet espace fictif, imaginaire, beaucoup plus simple que l'espace réel qui l'entoure et qui est rempli d'air. Alors là, pour le coup, les choses se décantent et la feuille tombe exactement comme la pierre et on arrive à cette loi universelle de la chute des corps, mais dont vous voyez bien que c'est une loi idéalisée. Il faudra attendre longtemps après Galilée pour qu'on arrive à la mettre en évidence visuellement. Il faut attendre les premières pompes à vide à la fin du XVIIe siècle pour qu'on arrive à faire un vide approximatif dans un grand tube et qu'on fasse tomber, expérience classique du début du XVIIIe, une petite bille de métal et une plume et qu'on les voit tomber à la même vitesse. Et puis on attendra l'arrivée d'Apollo.
Apollo, oui, c'est vrai que la mission Apollo 15 avait fait, enfin, ils l'ont fait de façon qualitative, pas quantitative, mais on voyait effectivement, c'était stupéfiant, cet astronaute dont j'ai oublié le nom, qui lâchait un marteau de géologue et une plume de faucon, parce que le module lunaire d'Apollo 15 s'appelait Falcon, et on les voit, ils tombent exactement au même rythme, en même temps, ils touchent la surface de la Lune, lâchés sans vitesse, à la même hauteur, ils touchent le sol de la Lune au même moment, ou pratiquement au même moment.
Quatre siècles après que Galilée l'ait imaginé. Donc, effectivement, cette fiction que crée Galilée est une fiction réaliste, en ce sens qu'elle va nous dire ce qui se passe effectivement dans des circonstances qui, à l'époque, ne sont pas réalisables. Vous voyez que pour lui, c'est un jeu d'esprit extraordinaire. Il faut, je crois, rendre pleine justice à nos grands prédécesseurs scientifiques, à leur capacité d'imagination qui est considérable. Il ne faut pas croire que la science se borne à observer le réel tel qu'il est et à le décalquer. C'est tout le contraire. Si vous êtes au plus près du réel, vous ne voyez rien. Il faut vous en détacher et à partir de ces bribes de réel extrêmement confus qui nous entourent, essayer de créer des concepts qui sont des concepts proprement imaginaires. On peut donner des exemples beaucoup plus simples, d'ailleurs, pour revenir aux mathématiques. Je parlais de géométrie. Mais les nombres, les nombres les plus simples, les nombres entiers, 2. Est-ce que vous avez déjà vu ou touché 2? Non. Vous avez vu 2 pommes, 2 bouteilles, 2 bonshommes, mais 2. Non. Qu'est-ce que c'est que 2? 2, c'est une propriété abstraite qui est la propriété commune à un ensemble de 2 bouteilles, de 2 bonshommes, de 2 pommes, etc. Donc vous voyez que même les nombres entiers, les purs nombres entiers, sont des produits de l'esprit, sont des fictions au sens actif, fort et noble du terme. Et donc je crois qu'il ne faut absolument pas négliger cet aspect de la science qui est son aspect, je dirais, le plus intéressant d'une certaine façon, parce que c'est son aspect créatif. Faire de la science, c'est trouver les fictions efficaces.
Est-ce que ça correspond peut-être à trouver des choses qui sont communes à un ensemble de phénomènes, qui ont l'air différents dans leur manifestation d'observation éventuellement expérimentale, mais où il y a quelque chose de commun qui les lie et qui permet de les unifier, ou en tout cas de les comprendre par ce biais commun. Je pense aussi au principe d'inertie. Enfin, c'est un peu la même chose, l'idée qu'on avait avant. Qu'est-ce qui fait que le mouvement se prolonge une fois qu'on a jeté la pierre en l'air? Pourquoi le mouvement de la pierre se prolonge? Et en fait, il ne se prolonge pas vraiment, parce qu'il finit par s'arrêter. Mais si on était dans l'espace, loin de toute masse et sans air, alors ce mouvement se prolongerait, et se prolongerait évidemment ad infinitum, alors comme avec un infini qui apparaît, se prolonger sans être jamais arrêté. Mais finalement, c'est une manière de simplification ou de, comment dire, de, parce qu'on exclut, on enlève un morceau de la réalité concrète, celle qui est devant nous, on enlève l'air par la pensée. Et on se dit, et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'air? Et donc c'est une manière de raconter une histoire en enlevant un morceau de réalité.
Tout à fait. Tout à fait, parce que la réalité est tellement compliquée, tellement confuse, qu'on ne peut pas la traiter par notre raison qui ne peut opérer. Vous savez, c'est un peu la rationalité scientifique, c'est un peu comme un microscope. C'est extrêmement puissant pour voir des détails fins, à condition que vous vous concentriez sur un objet très précis. Il faut écarter énormément de choses dans le réel pour pouvoir en parler scientifiquement. Le réel dans toute son ampleur, ceux qui nous entourent ici, vous tous, nous, la science n'a pas grand-chose à en dire, sauf si on lui pose une question extrêmement précise sur, je ne sais pas moi, les microbes qui habitent tel ou tel de nos organes ou le fonctionnement de notre système visuel. C'est-à-dire si nous arrivons à préciser notre question de telle façon qu'elle se focalise sur une question. Mais la même chose est vraie. Jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de la production théorique de la science. Mais la même chose est vraie dans le domaine expérimental. Faire une expérience scientifique. Idée qui naît au début du XVIIe siècle. Là encore, hein, la révolution scientifique. Jusque-là, qu'est-ce que font ceux qui font de la science? Ils ne la font pas comme nous, d'ailleurs. Peut-être que c'est un certain abus de langage de parler de science quand nous parlons de science grecque, science babylonienne, science égyptienne. C'est pas la même chose. À preuve, le fait qu'on observe le monde. Aristote observe le monde et tâche d'en parler, d'en déduire.
Il fait pas d'expérience, quoi.
Il fait pas d'expérience.
Et pourquoi est-ce qu'il fait pas d'expérience? Est-ce qu'il y a une raison philosophique,
une position? Oui, il y a une raison philosophique. Il y a une raison philosophique, une raison, je dirais, sociale. Parce que faire des expériences, c'est toucher la matière. Scandale. Quand on est philosophe dans la Grèce antique, on est un homme libre. 5% de la population. Un homme libre ne touche à rien. Il garde les mains dans les poches de ses toges. Qui touche la matière? Les esclaves. C'est très clair chez Platon. Les philosophes, les hommes qui pensent, sont des hommes qui sont détachés de la matérialité pour travailler par l'esprit pur. Et donc, le rapport entre le travail mental et le travail manuel, artisanal, est complètement clivé par l'état de la société dans l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge. C'est justement ça qui change après la Renaissance, puisque de nouvelles couches sociales, les commerçants, les artisans, arrivent petit à petit à des positions moins basses dans la société. C'est la montée de la bourgeoisie dans les villes. C'est-à-dire que vous avez maintenant des gens qui savent travailler de leurs mains le bois, le tissu, le fer, et qui commencent à acquérir une certaine respectabilité sociale. Du coup, le rapport avec la matière cesse d'être ignoble. Ignoble au sens étymologique du terme, non noble. Et c'est parfaitement explicite chez Galilée, toujours lui, parce qu'il est vraiment emblématique. Il y a un merveilleux passage dans les discours sur de nouvelles sciences, où il explique qu'il fréquente assidûment l'arsenal de Venise, là où on construit les bateaux, parce qu'il a là le contact avec les artisans, les ingénieurs, les contremaîtres, qui lui mettent en évidence des effets extrêmement intéressants. Les machines simples.
Machines simples, les leviers.
Alors, le levier dont on connaît plus ou moins la théorie depuis Archimède, mais la poulie, il n'y a pas de théorie de la poulie jusqu'à cette époque-là. On sait depuis des millénaires, les marins savent, les bâtisseurs savent qu'une poulie, ça permet de démultiplier les efforts. Mais il n'y a pas de théorie de la poulie. Et Galilée va faire une théorie des machines simples parce qu'il regarde de près ce que font ces gens. Mais alors attention, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va s'inspirer de ces effets mécaniques qu'il observe pour les expliquer, mais il va s'en inspirer justement pour inventer l'expérimentation. Et le cas de la chute des corps est un exemple merveilleux. Parce que Galilée veut comprendre comment un corps tombe. Si vous prenez un machin et que vous le lâchez comme ça, ça tombe trop vite pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Alors que fait Galilée? Il utilise un plan incliné. Il se construit, et si vous allez à ce que je vous conseille à ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous allez à Florence au musée d'histoire des sciences, vous verrez les instruments de Galilée, son plan incliné et d'autres, sa lunette bien sûr. Donc il construit un plan incliné qui a pour vertu qu'il ralentit le mouvement. Et donc à partir de là, comme votre bille sur le plan incliné tombe plus doucement, vous pouvez commencer à faire des mesures raisonnables de temps et d'espace et à dériver à la fameuse loi qui vous dit que la distance parcourue croît comme le carré du temps mis à la parcourir. Mais ça ne va pas du tout de soi, cette idée d'expérimentation. Pour nous, elle va de soi maintenant, parce que ça fait 4 siècles qu'on en fait. Mais à l'époque, il est vivement critiqué par les tenants de l'ancienne méthodologie aristotélicienne qui lui disent « Mais attends, qu'est-ce qui nous garantit que quand tu observes la chute d'une bille sur un plan incliné que toi, humain, tu as fabriqué, qui est donc artificiel, qu'est-ce qui nous garantit que ça va tomber en suivant les mêmes lois que la chute d'un corps naturel ?»
C'est une façon de dire qu'il a forcé la nature à... Il a, en faisant cette expérience, cette observation artificielle, il a forcé la nature à faire une chose qu'elle n'a pas, peut-être pas fait spontanément, qu'elle n'aurait pas fait spontanément, et qui du coup pourrait être différente de la chose.
Il force la nature à nous raconter une histoire qu'elle n'a jamais racontée. Alors, c'est un pari intellectuel extrêmement audacieux, qui consiste à dire l'intervention humaine qui va construire des appareils expérimentaux va me permettre de savoir ce qui se passe naturellement. Il n'y a pas d'opposition entre le naturel et l'artificiel. Même idée que Galilée va dire, il n'y a pas d'opposition entre ce qui se passe sur la Terre et ce qui se passe dans le ciel. C'est un geste d'une audace intellectuelle absolument inouïe, dont il faut bien voir la portée, et dont toute la science moderne est l'héritière. Il faut bien comprendre que ce geste n'a rien d'évident. Il faut arriver à un stade bien précis de l'histoire de l'humanité, à un moment et dans un lieu donné, pour que ce pas puisse être franchi.
Alors, on a parlé avant de ce côté expérimental, qui est aussi finalement une fiction, où on fait raconter, donc, comme tu le disais, à la nature une histoire qu'elle n'aurait peut-être pas racontée spontanément. On parlait du procédé par... on enlève un morceau de la réalité, on enlève l'air et on imagine ce qui pourrait se passer s'il n'y avait pas d'air. Est-ce qu'il y a des cas où on a, au contraire, l'histoire que l'on fait raconter ou qu'on essaie de raconter, c'est pas en enlevant, mais c'est en rajoutant quelque chose, en ajoutant des choses qui ne sont pas là ou qui ne semblent pas être là, on les rajoute et on en déduit, on en tire des conséquences.
Oui, absolument. Alors ça, il y a effectivement deux formes de, si j'ose dire, de fictionnalisation, une par restriction dont on a parlé, consiste à restreindre le champ dans lequel on opère, voire à l'artificialiser. Mais il y a aussi des mécanismes d'extension par lesquels, pour comprendre une certaine situation, un certain phénomène, nous le plongeons mentalement dans un cadre plus large. Alors, on a déjà fait allusion à un procédé de ce genre-là, c'est tout simplement l'intervention de l'infini. L'infini, qui est évidemment un concept, une idée, nous simplifie beaucoup la vie. Il ne faut pas croire que l'infini, c'est une chose compliquée. Ça a pour but de simplifier le monde. Parce que, dans le concret, quand vous avez, je ne sais pas, prenez cette salle ici, combien il y a de molécules d'air ? Beaucoup. 10 puissance 29, ouais, 30, ouais. Quelque chose comme ça. Personne ne peut les compter. Si on les comptait, on aurait un nombre avec un nombre de chiffres significatifs invraisemblables et des zéros en pagaille. Ce nombre n'a pas de sens, puisque vous pouvez en rajouter une, en rajouter deux, en rajouter même 1000, ça ne changera rien. Et donc, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, non, mais attendez, quand j'ai un nombre si grand, bah, le plus simple, c'est d'imaginer un nombre qui soit plus grand que tous les autres, comme ça, je n'ai pas de problème. Et donc, vous imaginez l'infinitude, et à ce moment-là, par exemple, pour établir, je ne sais pas moi, la loi des gaz parfaits en mécanique statistique, vous imaginez un espace infini rempli d'un nombre infini de molécules qui est beaucoup plus simple qu'une salle qui ferait 16,43 mètres de large sur 26,56 de long, qui serait remplie de 6 milliards de milliards de milliards de milliards de molécules. Donc, vous avez ce procédé d'extrapolation qui, à partir d'un réel, compliqué et contingent, vous permet de forger des représentations mentales idéales. Ben oui, personne n'a jamais vu l'infini, mais ce concept rend compte d'une façon extrêmement pertinente des très, 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 très grands nombres.
On l'a aussi, puisqu'on parlait de géométrie, on a des mathématiciens dans la salle, j'en vois au moins un. Donc on travaille sans contrôle. En géométrie, on s'est représenté la Terre sphérique avant de s'en extraire pour la voir, la constater sphérique. Donc on avait une Terre dont on a pu déterminer même le rayon, la circonférence, et ce dès l'Antiquité, et sans avoir besoin de sortir. Donc imaginez, on sait bien que nous avons trois dimensions, que l'espace a trois dimensions, mais en pratique, nous sommes évidemment scotchés à la surface de la Terre avec quelque chose comme deux dimensions, et on a pu quand même, finalement, porter un regard sur la Terre comme vu de l'extérieur avant de le faire en réalité. Et on fait aussi en géométrie des espaces avec des dimensions qui ne sont pas trois dimensions d'espace, plus grandes. Et même la physique, d'ailleurs, utilise ces espaces dans certaines de ces propositions.
Oui, alors c'est un excellent exemple parce que quand vous vous intéressez à une réalité d'un certain phénomène qui a lieu à deux ou trois dimensions dans notre monde tel que nous le vivons, il se trouve qu'il est parfois utile de considérer un espace fictif plus grand qui aurait 4 ou 5 ou 6 ou voire beaucoup plus de dimensions dans lequel les propriétés de notre espace à trois dimensions apparaissent comme des cas particuliers de quelque chose de beaucoup plus général. Alors, si on avait le temps et un tableau, je pourrais vous montrer quelques cas simples où, en géométrie élémentaire, celle que vous avez apprise au lycée, il y a certains théorèmes de géométrie plane, de géométrie euclidienne sur un plan, qui se démontrent beaucoup plus facilement en plongeant la figure plane dans un espace à trois dimensions. Alors, l'espace trois dimensions, vous pouvez vous le représenter, il existe autour de nous, c'est pas trop difficile. Mais mentalement, nous pouvons faire exactement la même chose pour comprendre certaines propriétés de certaines figures dans l'espace à trois dimensions. Il est souvent utile de le plonger dans un espace à 4 ou 5 ou 6 ou plus dimensions. Un exemple parmi d'autres, je ne sais pas si le mot dira quoi que ce soit à certains d'entre vous, mais les quasi-cristaux. Les quasi-cristaux sont des formes d'organisation de la matière qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années maintenant, hein, à peu près. Oui, une trentaine, mais enfin, pas beaucoup plus que ça. Qui sont des formes d'organisation de la matière qui ne sont pas cristallines au sens traditionnel du terme. Au sens traditionnel du terme, un cristal, quelque chose qui est totalement répétitif. Comme, je ne sais pas moi, un quadrillage de jeux d'échecs infinis ou un pavage, vous savez, de tomates hexagonales. Voilà. Donc ça, ce sont des vrais cristaux périodiques. Et ce qu'on a découvert il y a une trentaine d'années, bizarrement tardivement, parce que les géomètres du 19e siècle auraient pu, c'est qu'il y a des formes d'organisation, à deux dimensions déjà, où vous avez de l'ordre à courte distance, mais qui n'est pas périodique à longue distance. Vous avez des motifs réguliers, mais qui ne se répètent jamais à l'infini de proche en proche. On appelle des quasi-cristaux. Or, cette forme qui est bizarre, c'est à moitié irrégulier, qui existe à deux ou à trois dimensions, il se trouve qu'on la comprend beaucoup mieux si on les considère, ces quasi-cristaux, comme des formes qui sont des projections à trois dimensions de structures dans des dimensions plus grandes, 4, 6 ou 10, qui sont, elles, parfaitement régulières. Et donc, cette irrégularité ou cette régularité imparfaite à trois dimensions est la trace dans cet espace trois dimensions de quelque chose qui est beaucoup plus simple dans un espace fictif de dimensions supérieures.
Donc là, c'est une façon de finalement unifier des propriétés ou de comprendre des propriétés par le haut en se rendant compte qu'elles ne sont pas curieuses ou étonnantes telles qu'on les regarde, mais de les intégrer dans un corpus plus vaste dans lequel elles sont un cas particulier d'une propriété plus générale, finalement.
Voilà. Et ça permet de comprendre, dans une situation donnée, ce qui relève d'une situation générale, générique d'ailleurs, diraient les mathématiciens, et ce qui est au contraire singulier. Je donne un exemple parce que je le trouve amusant. Si vous considérez les polyèdres réguliers, vous savez, les polyèdres platoniciens, dit-on, ceux qui ont exactement des faces égales, des sommets égaux. Vous savez qu'il y en a 5 dans l'espace en 3 dimensions. Il y a le cube, le tétraèdre, l'octaèdre, Non, alors je dirais le tétraèdre, le cube et l'octaèdre, et le dodécaèdre et l'icosaèdre. Il y en a cinq. Si vous passez dans des dimensions supérieures, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a que trois familles, une qui généralise le tétraèdre, une qui généralise le cube, une qui généralise l'octaèdre, qui sont donc des cas universels, d'une certaine façon. Qu'il y ait dans notre espace des cubes, des octaèdres et des tétraèdres, ne doit pas nous étonner, parce que c'est vrai dans tous les espaces. Par contre, le dodécaèdre et l'icosaèdre sont des cas extrêmement particuliers de l'espace à trois dimensions. Et donc, plonger une situation donnée au sein d'une situation beaucoup plus générale, construire une fiction dans laquelle l'histoire qui nous intéresse est une petite partie, une petite nouvelle à l'intérieur de ce grand roman, nous permet de mieux mettre l'accent sur ce qui est général, commun, universel, et sur ce qui est au contraire singulier.
Alors on parlait donc de cette imagination, de ces fictions par restriction, par extension. L'expérience, évidemment, qui est donc une manière de fiction de la réalité, d'imposition, de fait, obliger la réalité à raconter, ou la nature à raconter des histoires qu'elle ne raconte pas. Maintenant, il y a évidemment un autre mode encore d'investigation du réel, qui consiste à simuler, qui consiste à calculer dans des ordinateurs, à programmer finalement, disons, des équations, à les résoudre et à essayer de se représenter, de représenter l'évolution d'un système complexe sous la forme d'un calcul, et qui est aussi une manière de fiction, puisque cette fois-ci, ce sont des équations que l'on pense être à l'œuvre, qui sont elles-mêmes peut-être imparfaites, peut-être déjà elles-mêmes simplifiées, et qui sont à l'œuvre dans une machine qui en produit des résultats, et qui ne sont pas la réalité, bien sûr, mais encore une fois, un calcul qui est censé représenter la réalité. Donc est-ce que ce troisième mode-là est aussi, s'inscrit aussi dans le...
Oui, je pense, mais sur un... D'une façon qui, à mon avis, est encore assez obscure et qui mérite qu'on y réfléchisse beaucoup plus. Donc je n'en dirai que quelques mots, parce que je me pose beaucoup plus de questions là-dessus que je n'ai de réponses. En fait, vous savez que l'essentiel de la réflexion sur la pratique scientifique, l'épistémologie, pour employer des grands mots, jusqu'à présent a toujours été fondée sur une sorte d'analyse duale de la pratique scientifique, l'expérience et la théorie, qui ont des liens les uns avec les autres. Est-ce que l'une vient avant, l'autre vient après? C'est l'objet de discussions sans fin, je ne rentrerai pas. Mais en tout cas, on analyse classiquement la pratique scientifique sur ce double mode. Or, il me semble que ce qui se passe depuis maintenant presque un demi-siècle introduit un troisième mode, la simulation dont vient de parler Roland, qui n'est pas de la théorie au sens traditionnel du terme. L'ordinateur, il ne pense pas, il ne manipule pas des concepts, il fait juste circuler des électrons, des bits, etc. Mais qui n'est pas de l'expérience non plus, puisque quand l'ordinateur, sous votre direction, exécute un programme et calcule quelque chose, il ne fait pas tomber une petite bille. On n'est pas dans de l'analogique, hein. On est dans une espèce de virtualité, de fictionnalité, qui, à mon avis, est aussi différente de la théorie classique que de l'expérimentation classique. Je crois qu'aujourd'hui, la science, la pratique de la science, c'est tripolaire. Mais ce troisième pôle, celui de la simulation, à mon avis, est encore en manque de théorisation, et j'en dirai pas beaucoup plus pour l'instant.
Parce qu'il est très présent, c'est un mode qui est très présent.
Alors, dans la pratique, il est très présent, il occupe une bonne partie de nos collègues. Hein. Je me demande même s'il n'en occupe pas aujourd'hui la majorité.
Alors, je vois en astrophysique, par exemple, que je connais bien, c'est vrai qu'impossible de faire d'expérience d'astrophysique, on ne fait que des observations. Pour le coup, c'est encore peut-être ce qui singularise cette discipline dans la physique, c'est qu'elle ne fait que des observations, et elle essaie, c'est vrai, de se rattraper comme elle peut aux branches, en faisant des simulations dont elle espère qu'elle a quelques pertinences, mais donc évidemment il y aurait beaucoup à discuter là-dessus. Elle fait aussi intervenir des acteurs qu'on ne voit pas. Quand on parle de matière noire, quand on parle d'énergie noire, on a l'impression de faire apparaître des acteurs qui semblent être... Enfin, des choses se produisent qu'on a du mal à interpréter, et on rend responsable quelque chose qu'on ne voit pas mais qui semble être là, enfin dont on espère qu'il est là. Donc là, il y a aussi une manière de fiction. Enfin, l'astrophysique, pour ça, est riche en fiction, finalement. Enfin, entre la simulation qui tente à remplacer ou en tout cas à compléter l'expérience avec les bémols qu'on pourrait mettre, et puis l'apparition d'acteurs dont pour l'instant on ne sait quand même pas grand-chose, à part qu'il y a des phénomènes qui se passent et que l'on ne sait interpréter que si l'on met ces acteurs.
Oui, mais alors là, tu as tout à fait raison. Le cas est typique. C'est une très bonne forme d'intervention de la démarche fictionnelle. C'est-à-dire que devant un phénomène que vous ne comprenez pas, vous êtes amené à imaginer que vous avez quelque chose qui se passe sur la scène du théâtre, et vous ne comprenez pas ce qui se joue, vous ne comprenez pas l'intrigue, et vous arrivez à l'interpréter éventuellement en imaginant qu'en coulisses, il y a d'autres acteurs qui entretiennent avec ceux que vous voyez sur la scène tel et tel rapport, qu'il y a une scène de jalousie entre deux personnages parce qu'il y a l'amant de la femme qui est cachée en coulisses ou dans le placard, que sais-je, etc. Et donc, vous imaginez ces acteurs-là. Quelquefois, ces acteurs sortent des coulisses et arrivent sur la scène. C'est le cas du boson de Higgs.
C'est le cas du boson de Higgs. Il y a le cas de Neptune, de la dureur de Neptune.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il y a encore? Le neutrino.
Alors,
c'est arrivé.
Voilà. Bah, alors, il y a ces acteurs qui sont au départ purement imaginaires, mais ce sont des cas où la fiction a interprété assez profondément le réel pour que ces acteurs, peut-être pas toujours exactement identique à ce que vous aviez imaginé. Par exemple, le neutrino, il a quand même une petite masse, ce qu'on ne pensait pas au début, mais en gros, arrive. Mais il y a beaucoup de cas où ces personnages en coulisses se révèlent purement fantomatiques et disparaissent. L'éther est un bon exemple. L'éther qui, au XIXe siècle, était en coulisses un acteur majeur parce qu'on avait besoin de lui pour propager le champ électromagnétique.
L'éther, je précise, excuse-moi Jean-Marc, c'est pas l'éther,
c'est pas l'éther des chimistes.
De pharmacie, hein. C'est l'éther, le milieu qui était pensé comme nécessaire à la propagation de la lumière. Comme le son a besoin de matière, d'air par exemple, on pensait que la lumière avait besoin d'un milieu particulier pour se propager.
Et arrive le début du XXe siècle, Einstein en particulier, qui nous dit non, l'éther est un personnage qui requiert une fiction beaucoup trop compliquée parce qu'il faut qu'il soit à la fois extraordinairement ténu pour que les planètes puissent se déplacer à travers lui sans être freinées et en même temps extrêmement rigide pour que la lumière puisse s'y propager très vite. Et donc ce personnage va être chargé de tellement de propriétés bizarres qu'il va s'avérer finalement beaucoup plus commode d'y renoncer.
Évacuer.
Je ne donnerai pas ma main à couper que c'est pas ça qui va se passer pour la matière et l'énergie noire.
Oui, c'est possible, bien sûr, évidemment.
Hein,
évidemment.
Il est très possible que ce que nous appelons aujourd'hui matière et énergie noire suive le sort de l'éther et soit remplacé par une autre interprétation des phénomènes qu'aujourd'hui ils nous paraissent pouvoir expliquer.
Oui, c'est ça, c'est assez fréquemment en physique. Il arrive parfois que quand on a une observation, enfin même quand on a une observation, c'est pas parfois, à chaque fois qu'on a une observation curieuse, on peut, enfin curieuse, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans le cadre déjà établi ou qui fait déjà consensus, on peut soit modifier les lois précédentes, se dire ben écoutez, c'est pas bon, il faut tout refaire, ou les modifier peu ou prou, voire les amender à un point tel qu'on les supprime, on les remplace franchement. Ou alors on dit bon on les garde parce que quand même on y tient, c'est pas mal quoi, la gravité, ce qui fait fonctionner, tourner les galets, c'est pas mal, on les garde, mais alors on va rajouter un acteur, voilà, on rajoute un acteur. Et des fois c'est moins coûteux, cette fiction finalement est intellectuellement moins coûteuse pour l'instant que de transformer les lois, qui peut être coûteux parce que là on sait ce qui va se passer si on doit transformer les lois de la gravité, qui par ailleurs sont vérifiées dans une large gamme expérimentale. Ça va être coûteux, ça sera très coûteux au sens en énergie, en temps, pour reformuler ces lois, tenant compte des phénomènes déjà validés, où ça fonctionne déjà très bien, et pour intégrer quelque chose qui paraît curieux. Donc c'est un confort intellectuel, une optimisation de l'effort à fournir pour l'instant.
Je crois que c'est que la science fonctionne toujours sur ces deux modes à la fois, un mode conservateur et un mode révolutionnaire. C'est-à-dire que face à des observations nouvelles, inédites, incompréhensibles, vous avez, comme Roland vient de le dire, deux attitudes possibles. Où vous dites, ce que je pensais jusqu'à présent est complètement faux, ou ça n'est valable que localement, il faut que je refabrique complètement ma théorie, ce que va faire Einstein en reformulant l'espace et le temps, ou alors vous dites non, je peux modifier un petit peu la situation de telle façon à rendre compte des phénomènes. Je vous donne un exemple historique assez amusant de la chose, toujours en revenant au début du XVIIe siècle et à Galilée, qui apporte grâce à sa lunette des éléments observationnels en faveur du système de Copernic, donc en faveur du fait que la Terre n'est pas au centre de l'univers et que le monde lunaire et supralunaire n'est pas différent du monde sublunaire, contrairement à ce qu'Aristote prétendait. Galilée dit, ben, regardez, je vois bien avec ma lunette qu'il y a des montagnes sur la Lune. Regardez, mettez l'œil à l'oculaire et vous verrez que il y a des montagnes. Je peux même calculer, ils calculent leur hauteur hein, assez précisément. Ils se rendent compte qu'elles sont
avec les ombres, c'est ça?
Oui, avec les ombres. Il fait de la trigonométrie banale. Hein, c'est... Et ils montrent que les montagnes de la Lune font plusieurs milliers de mètres. Elles sont aussi hautes que les montagnes de la Terre. Alors évidemment, ça heurte beaucoup la majorité de ses contemporains qui sont encore, ça ne va pas durer très longtemps, mais qui sont encore dans la postérité aristotélicienne. Et en voici un qui arrive et qui dit, mais non, mais les corps supralunaires sont, comme nous l'a renseigné Aristote, des corps parfaits. Ils doivent être nécessairement absolument sphérique et tournée sur des orbites totalement rondes. Alors comment réconcilier l'apparence des montagnes sur la Lune et l'affirmation de principe que la Lune doit être sphérique et lisse? Eh bien c'est bien simple, il n'y a qu'à imaginer qu'elle est entourée d'une couche de cristal transparent qui elle est parfaitement lisse et sphérique et que vous ne voyez pas. Donc la Lune est sphérique, lisse, transparente, vous ne la voyez pas.
Mais on voit son intérieur, l'intérieur à travers cette
voilà,
couche.
Voilà. Donc là, vous avez un phénomène typique de ce mécanisme qui consiste à sauver les apparences. Alors, on peut ça, évidemment, on peut s'engosser aujourd'hui et trouver que c'était ridicule. Ça ne l'est pas tellement à l'époque, parce qu'il faut bien voir que si chaque fois que les observations ou l'expérimentation butaient sur un phénomène incompréhensible, on mettait tout à la poubelle, on n'en sortirait jamais. Donc il faut que, avant de se débarrasser d'une idée et de la juger comme dépassée ou caduque, on fasse le maximum pour essayer de voir si on ne peut quand même pas la préserver.
C'est un peu ce qui se passe en cosmologie avec ces modèles à Big Bang qui ont été bien transformés depuis les premières les premières explicitations par Friedman et Lemaître, et on a rajouté l'inflation, et on a rajouté la matière noire, et on rajoute l'énergie noire. On est toujours dans le même cadre, mais on rajoute des bouts, on rajoute des épicycles, diraient les anciens.
Et jusqu'à présent, ouais, ça marche.
Jusqu'à présent, ça tient. Voilà. À un moment donné, quand la construction sera trop bancale, bon, ça s'écroulera peut-être. Alors, comme il nous reste un quart d'heure, je vais vous proposer de vous prendre des questions dans la salle. Maintenant, j'imagine que vous en avez un certain nombre. C'est une conférence assez physique, là, hein, c'était la science dure, hein, qui rigole pas, c'était pas la science-fiction divertissante, mais en même temps, mais qui rigole pas, si, ouais. Parce que moi, ça me fait beaucoup rigoler aussi. Galilée, c'est vrai que c'est drôle. Son texte, ses textes, évidemment, sont extrêmement drôles, avec ses trois personnages, Salviati, Sagredo, et puis surtout Simplicio, voilà, dont il se moque beaucoup. Le texte est tout à fait amusant. En même temps, voilà, il y a de la fiction, je pense qu'on peut conclure qu'il y a de la fiction dans la science, et qu'elle est même nécessaire.
Tu me permets de rajouter juste un mot avant les questions?
Avant les questions, d'accord.
Oui, parce que tu parles à très juste titre des dialogues de Galilée, qui sont un livre absolument merveilleux, parce que c'est un vrai dialogue. Les trois personnages sont en controverse, et ça se lit, je ne dirais pas comme un roman ni comme une pièce de théâtre, mais ça se lit, c'est beaucoup plus drôle que les articles scientifiques d'aujourd'hui, et c'est lisible par tout un chacun. Ça veut dire que l'un des traits de génie de Galilée, c'est pas seulement d'avoir été un grand physicien, un bon mathématicien, un astronome génial, ça a aussi été un excellent écrivain. Et ses textes sont d'ailleurs utilisés en Italie comme des textes de littérature classique, comme Descartes ou Pascal d'ailleurs chez nous. Hein. Ce qui veut dire que ça ouvre une question qu'on n'aura pas le temps de discuter, mais qui est le rapport entre le contenu et la forme. de la science. Comment la science s'écrit-elle, se dit-elle? Et il y aurait long à en dire ici, en comparant ce qui est devenu une forme quelque peu figée, celle de la publication scientifique aujourd'hui, qui est très technique, très schématique. Les articles scientifiques sont construits toujours de la même façon, ne peuvent être lus que par une poignée de spécialistes. Et pourtant, nous avons besoin aussi de gens qui nous la racontent, qui en font une narration, ce que Roland fait admirablement dans ses livres. Et nous avons besoin, si j'ose dire, de ce que j'appellerais volontiers des grands interprètes de la science. C'est Victor Weisskopf, qui était un grand physicien du siècle passé, qui disait, c'est quand même curieux, parce que dans les arts dramatiques ou musicaux, par exemple, on admire évidemment les créateurs, les auteurs, les compositeurs. Mais on n'admire pas moins les grands interprètes. Que seraient les concertos pour violon de Beethoven s'il n'y avait pas des Oistrakh pour les jouer? Et Weisskopf disait peut-être qu'il faudrait rendre plus de justice, plus d'hommage à ceux des scientifiques qui sont des grands interprètes de la science, qui ne sont pas nécessairement les plus grands inventeurs, les plus grands créateurs, mais qui sont ceux qui sont capables de la narrer, de la raconter de la meilleure façon.
Ça me ferait plaisir, peut-être. Alors, quelques questions, si vous en avez. On a une grosse dizaine de minutes pour poser quelques questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule parmi vous, sinon je il faudra s'avancer, je vous passerai mon micro. Il y a un long câble, j'ai un long câble. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer pour une question? Ah, monsieur. Alors peut-être faudra vous avancer, je vais essayer de... Ah non, j'ai un long câble, mais qui n'est pas si long que ça. L'infini est borné, finalement. Hein? Ah, celui-là est plus long? Oh non, il a l'air pareil. Il a l'air pareil, Jean-Marc, ce que tu es branché ici. Voilà, merci. Avancez-vous jusqu'à peu près là.
D'accord, voilà. Bonjour. Vous parliez de narration, en fait, sur les sciences. Est-ce que c'est justement pas ce qui manque dans le programme scolaire? C'est-à-dire qu'on ne fait plus de narration des sciences, on fait une espèce d'apprentissage très, institutionnel. Et pas tellement, en fait, quand on essaye d'aborder, par exemple, en sciences entomologiques, une description à la Fabre, par exemple, par rapport à une description d'un manuel classique. On se trouve confronté, en fait, avec un désintérêt presque en face.
Oui, moi je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il me semble que l'enseignement des sciences souffre énormément d'avoir été déculturé d'une certaine façon. Vous savez, la science se targue très souvent d'être absolument contemporaine, de pouvoir oublier son passé, parce que son passé serait récapitulé dans son présent, alors on dit bon, mais c'est pas la peine de retourner aux grands anciens. C'est bizarre comme attitude, parce qu'aucune autre forme de création humaine ne fonctionne comme ça. Ni la littérature, ni la musique, ni le théâtre, ni la politique ne fonctionnent en oubliant le passé. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est uniquement parce que vous explorez la littérature passée que vous pouvez comprendre peut-être la littérature actuelle. On n'imagine pas que dans les librairies, vous ne puissiez acheter que les livres qui sont parus dans les 10 dernières années. Ça serait une absurdité totale. Ni que dans les salles de concert, on ne joue que les œuvres qui ont été composées dans les 10 dernières années. Pourquoi en serait-il différemment dans la science? Or, c'est une chose relativement récente qui date du XXe siècle. Ça n'était pas comme ça avant. Dans les grandes périodes du XVIIIe et du XIXe, les scientifiques eux-mêmes connaissent très bien l'histoire de leur discipline et sont nourris à ces sources. Et moi, personnellement, je suis persuadé que la science serait beaucoup plus intéressante pour les gamins et pour les profs qui la leur enseignent si elle utilisait mieux ce que j'appellerais volontiers son répertoire, comme il y a un répertoire dramatique, en particulier, par exemple, en utilisant des textes de Galilée, pour donner cet exemple-là, mais ou de Fabre en entomologie. Je suis persuadé que c'est comme ça qu'on peut y arriver.
Est-ce qu'il y a une autre question pour Jean-Marc Lévy-Leblond? Non? Vous êtes saisi de frissons?
Ah, il y a un jeune homme là. Les scientifiques de la salle posent pas de questions. Après. Voilà, merci.
Pas trop. Oui, je me rappelle vous avoir entendu par ailleurs parler de comment certains concepts restaient complètement étrangers, certains concepts scientifiques nous restaient complètement étrangers et qu'on avait besoin d'objets souvent de progrès technologiques. Je me rappelle vous citiez le compteur de vitesse pour comprendre la vitesse instantanée et je me demandais s'il y avait maintenant des objets avec le temps qui passait qui pour vous nous permettraient de mieux comprendre certaines choses qu'on a du mal comme la topologie, la physique quantique et ce genre de choses qui restent assez abstraites.
Alors ça c'est une excellente question à laquelle j'ai pas de réponse et qui participe d'un certain pessimisme qui est le mien. C'est-à-dire l'exemple que vous donniez, je le redétaille en trois mots, hein. Toujours pour revenir à Galilée, il est fondateur, on ne l'évite pas. Quand Galilée veut obtenir la loi de la chute des corps, il est obligé d'arriver à concevoir un corps qui tombe de plus en plus vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus vite? Qu'est-ce que ça veut dire que un corps tombe avec une certaine vitesse à un moment donné? Si vous mettez à un moment donné, si vous fixez l'instant, le corps ne bouge pas. C'est un vieux paradoxe de grec.
C'est comme si on faisait pause, quoi. Si on fait pause...
Si tu regardes juste à l'instant, ça ne bouge plus. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut penser la vitesse, c'est-à-dire le mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui change, un espace qui change avec le temps, si le temps ne change pas? C'est mentalement extrêmement difficile et Galilée se bat avec cette idée pendant plusieurs années. Il s'en sort tant bien que mal. 50 ans après, arrive Newton, Leibniz, le calcul infinitésimal, qui nous dit « pas de problème, il suffit de calculer la dérivée ». Ils inventent ce concept mathématique de dérivation qu'aujourd'hui nous enseignons dès le lycée et qui règle la question une fois pour toutes. Qui la règle techniquement, mais est-ce qu'on l'a vraiment comprise pour autant? Si on ne pose pas la question conceptuelle qui est derrière, il n'est pas sûr que la notion de dérivée soit bien comprise. Cela dit, il y a autre chose qui nous sépare du temps de Galilée et qui permet la saisie de cette idée de vitesse qui change à chaque moment, c'est le tachymètre de votre voiture. Tous les enfants, depuis leur plus jeune âge, sont dans la voiture de maman et papa et voient l'aiguille du compteur de vitesse qui bouge. Et donc l'aiguille du compteur de vitesse qui bouge quand on freine, quand on accélère, montre bien que la vitesse est quelque chose qui peut changer à chaque instant. Et donc il y a dans un compteur de vitesse un objet technique qui matérialise ce qui, pendant des décennies, a été un pur concept, une pure idée. Puis un concept mathématique et qui maintenant devient quelque chose de concret et de pratique. Alors la question qui est posée, qui est une question parfaitement légitime, c'est est-ce qu'il existerait ou il existera dans l'environnement que nous maîtrisons, autour de nous, des objets qui pourront rendre concrètes certaines idées, pour l'instant assez ésotériques, de la physique fondamentale. Par exemple, de la théorie quantique. Pour l'instant, la réponse est non. Elle est non pour nous tous ici. En revanche, elle est oui dans les laboratoires. Les physiciens qui font de la physique quantique, qui manipulent les atomes et les molécules, en ont une pratique, une véritable pratique. Ils savent bouger les atomes, les tripoter, les faire bouger, d'une telle façon que eux ont maintenant une sorte d'imaginaire quantique, une représentation qui est assez concrète, pour le dire autrement, ils n'ont plus nécessairement besoin de résoudre des équations pour savoir ce que va faire l'électron. Ils en ont le feeling. Sauf que, pour l'instant, cette approche, ce que j'appellerais cette espèce de néo-concret, de concret de deuxième ordre, est pour l'instant réservée aux experts. Les objets qui fonctionnent à partir de là et que nous avons autour de nous, téléphone portable, un ordinateur, que sais-je encore, sont à cet égard des boîtes noires. Et c'est un véritable problème dont je ne connais pas la solution et dont je ne suis pas sûr que la solution existe, que de savoir si les avancées de la science contemporaine des quelques décennies passées seront un jour capables de se concrétiser dans des objets matériels de telle façon qu'ils puissent être saisis par l'imagination commune. Je n'en suis pas sûr. Et si tel n'est pas le cas, il y a un véritable risque de rouverture d'un hiatus considérable entre la connaissance savante et la connaissance profane. Malgré les travaux de tous ceux qui font de la vulgarisation, d'initiatives de ce genre-là, je ne suis pas persuadé que ce hiatus puisse être comblé. Et pour moi, l'avenir à cet égard est incertain.
Mais du coup, si ce hiatus n'était pas comblé, on pourrait aboutir à une situation où finalement les objets techniques se rapprochent d'objets magiques finalement. Si on les comprend si peu et ils ont des effets. Enfin, moi, je me rappelle d'une anecdote. C'est une anecdote que j'ai vécue personnellement. Dans ma résidence, pour sortir de la résidence, il y a une télécommande. On fait bip et hop, ça ouvre la porte automatiquement pour sortir avec sa voiture. Bon. Moi, qui sais comment fonctionne cette télécommande, qui envoie essentiellement des ondes radio, je sais que les ondes radio se réfléchissent sur les murs. Je vais, pour tourner à droite avec la porte ici, je fais pas ça. Je fais ça vers le mur de l'immeuble ici qui renvoie l'onde vers la porte. Et mon voisin, un de mes voisins, me croise et me dit « Comment vous avez fait ? Vous avez un truc, vous avez braqué à l'opposé de la porte et vous avez quand même ouvert la porte. » Et en fait, en discutant avec lui, en expliquant ce qui se passe, j'ai réalisé que pour lui, la télécommande qu'il avait en main, et probablement la télécommande de sa télévision, c'était une baguette, littéralement une baguette magique. C'est-à-dire il appuie sur le bouton et quand ça fonctionne, j'appuie là, ça fait ça, j'appuie là, ça fait ça. Et il se passe quelque chose qui agit sur les objets pour lesquels la télécommande est destinée. Donc ce hiatus dont tu parles pourrait augmenter impression de magie du matériel technique dont on dispose actuellement.
Mais je crois que nous rentrons dans cette période-là en ce moment. Je crois que nous y rentrons.
Donc là, c'est plus de la science-fiction, c'est la fantaisie
qui prend le dessus. Non, absolument. Je crois que nous rentrons dans cette période. J'espère, je souhaite, pas de façon définitive et absolue, mais nous y sommes. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la technologie qui nous environne, nous savons la manipuler pratiquement, mais nous ne savons pas comment elle fonctionne. Et de ce point de vue-là, nous sommes beaucoup plus près de la situation dans laquelle a vécu l'humanité pendant des siècles et des millénaires avant la révolution scientifique que de la façon dont elle a vécu, disons, au 19e, début du 20e siècle. Les objets techniques dans les sociétés traditionnelles sont des objets magiques. Les forgerons sont des sorciers. Hein ? Ils ont la maîtrise du métal et cette maîtrise est magique.
Ça va agir sur la matière, oui, c'est ça.
Parce qu'elle n'est pas à la portée de tout chacun. Et comment ils font ? Ils invoquent des esprits, ils ont un pouvoir magique sur la matière. Alors, évidemment, les choses ont changé au 18e, 19e siècle, essentiellement avec la mécanique, parce que la mécanique, elle est au sens propre, à portée de main.
On voit les boulons les roues qui tournent.
Ça peut se démonter, ouais. On peut voir les engrenages, une locomotive, on voit les bielles qui tournent, etc. À partir du début du 20e siècle, où la technologie se miniaturise, devient invisible et fait appel à des agents qui sont des agents auxquels nos sens ne sont pas sensibles, les ondes radio, effectivement, la représentation du monde a tendance à redevenir une représentation magique. Comment faire ?
Et du coup, le monde redevient une fiction. Le monde était une fiction peuplée de dieux, peuplée d'éléments, de forces. Ensuite, de forces mystérieuses. Est devenu quelque chose de plus concret. On avait l'impression de toucher la réalité. Je parle du monde pour le commun, pour les non-scientifiques, pour les non-experts. Et va peut-être redevenir comme ça.
C'est une des directions possibles.
Bon, je vais peut-être conclure ici parce qu'il est pile l'heure. On a commencé pile à l'heure, on finit pile à l'heure. Il y a notre ami mathématicien a une question. Allez, viens la poser, François. C'est une dernière question. Allez. Eh oui, il est mathématicien. Ça se voit tout de suite à son look. Salut, François.
Bon, moi, j'avais une question sur le nombre 2.
C'est bien 1+1.
C'est bien 1+1, ouais. C'est par rapport à la réforme du maths moderne, en fait, puisque tu as parlé justement de la fiction du nombre 2, qui pour moi est donc quelque chose qui a été construit, qui a été voulu par les maths modernes comme étant quelque chose qu'on devait raconter avant même de regarder ce qu'on avait sur les doigts. Qui est quand même quelque part un échec si on en juge le développement de l'enseignement à cette époque-là, pourtant qui est assez puissant. Hein. Et tu dis, voilà, la mécanique quantique, on la représentera peut-être jamais, mais peut-être qu'en fait on pourra en avoir un aperçu sans jamais la comprendre d'un point de vue théorique, en la manipulant. Et peut-être que la manipulation, ça vient justement de la simulation, de la modélisation dont tu parlais tout à l'heure. La question c'est, à quel moment on dérape, c'est-à-dire quels sont les contrôles qu'on a sur la compréhension qu'on a, puisque sur le nombre 2, on voit à peu près ce que ça veut dire. Normalement, quand on ramène deux pantalons pour les deux poupées, ça marche bien, et on peut faire l'expérience. La question c'est, quand est-ce qu'on peut faire l'expérience sur les simulations numériques?
Oui, ben, je crois qu'il n'y a pas de réponse à ça, si tu veux. C'est justement ce que j'aimerais voir surgir, puisque tu parles de théorie quantique. Ce que j'essayais de dire, j'ai peut-être pas été assez précis, c'est que je souhaiterais qu'apparaissent des objets concrets, utiles, qui soient, par rapport à certaines notions de la théorie quantique, ce qu'est le tachymètre de voiture par rapport à la notion de vitesse. Je n'ai pas dit que la simple observation d'un tachymètre donne accès à la notion de vitesse, mais elle permet de mieux la comprendre. Et d'ailleurs, il me semble qu'on aurait grand intérêt dans l'enseignement, quand on introduit la notion de dérivée, à regarder de plus près le fonctionnement d'un tachymètre. Faire le lien, justement, entre ce qui est du côté du concret, du pratique, et ce qui est du côté du théorique et du conceptuel. Donc, dans le cas de la...
Ça déréglé, oui. Tachymètre bien réglé.
Non, mais justement...
Ou même déréglé.
Justement, déréglé, parce que c'est là que tu vois l'écart qu'il y a entre une notion qui est une fiction mentale... quelque chose de concret. Hein. Alors, ce que je souhaiterais, mais je ne suis pas du tout sûr que ça arrive, c'est que des objets techniques nous permettent de commencer à voir ce qu'est, je ne sais pas, moi, la superposition quantique, l'intrication quantique, nous permettant ensuite de faire plus facilement l'effort de pensée qui nous permet d'accéder au concept.
On va conclure ici, alors. Parce que là, sinon, on est en retard. Merci à vous. Merci beaucoup.